Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, mais il a beaucoup d'autres secteurs à sa charge. Christopher Gégès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour faire un point sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et sur les réformes envisagées, notamment après la signature d'un accord cadre sur les réformes sociales et fiscales. C'était le 12 mai dernier. C'est la preuve qu'on peut donc signer des accords en Nouvelle-Calédonie. Alors comment est-ce que vous y êtes arrivé ? Est-ce que c'est la dégradation de la situation économique qui oblige à prendre des décisions ? Est-ce que c'est la pression de l'État qui continue à exiger des réformes ? Qu'est-ce qui a permis cet accord finalement ?
Déjà, quand on n'essaye pas d'imposer un document à ses partenaires, on arrive à signer quelque chose. Je pense que c'est la première des choses. C'est certainement pas la pression de l'État qui nous a fait signer cet accord. Cet accord, il est fait pour les Calédoniens, pour le quotidien des Calédoniens et surtout avec la responsabilité à la fois des partenaires sociaux et des collectivités qui sont concernées. On est aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement tendue sur l'économie calédonienne. Donc, on a pris le temps d'échanger déjà sur l'ordre du jour qu'on mettait sur cette conférence fiscale et sociale. On a partagé les différents documents. On a joué carte sur table. Enfin, le gouvernement a donné tout ce qu'il pouvait donner en matière de chiffres, de données. On a tout ce que les partenaires sociaux souhaitaient voir présenter. On les a présentés. Et je crois qu'on a eu des échanges qui fait que chacun est sorti de son idéologie et on a raisonné par pragmatisme et par responsabilité.
Alors, parce que cet accord cadre, c'est la suite, la conséquence de la conférence fiscale et sociale qui s'est réunie fin avril, du 22 au 25. L'objectif, c'était en fait de tout mettre sur la table pratiquement un an après le début des émeutes.
Oui, exactement, à la fois sur la situation des entreprises, sur la situation de l'emploi en Nouvelle-Calédonie, comment on avait des évolutions en termes d'emploi sur les types de contrats, sur la destruction d'emplois directs sur le territoire, avec plusieurs milliers d'emplois directs qui ont été supprimés, sur la question du pouvoir d'achat et de la vie chère sur la structure des prix. On a vraiment voulu avoir cette transparence pour prendre les bonnes décisions. Enfin, les bonnes décisions, on verra sur quand elles seront prises. En tout cas, elles seront prises à la fois sur le court, moyen et long terme, mais elles devaient être le plus partagées possible. Et je crois qu'il y a eu des pas qui ont été faits les uns vers les autres. Et ce que je disais en début d'émission, je crois qu'il y a surtout, et je pense que ça a été salué par tout le monde, une méthode qui faisait que il n'y a pas un document qui a été mis sur la table dès le début de la réunion en disant que c'est comme ça et on va faire comme ça. On a eu vraiment une volonté d'avancer ensemble sur le sujet.
Avec qui ? Alors, qui était autour de la table des discussions ? Est-ce que tout le monde a participé ? Est-ce qu'il y avait une volonté de chercher ensemble des solutions ?
Oui, tout le monde a participé. On a souhaité que les premières journées soient le plus large possible avec des auditeurs qui étaient très larges et un peu des séquences qui étaient ouvertes. Et l'après-midi était dédié à des négociations seulement avec les partenaires sociaux qui étaient représentatifs.
Tous les partenaires sociaux, alors que on sait que certains d'entre eux sont aussi très engagés politiquement, mais tout le monde a accepté, tous les syndicats de salariés ont accepté de participer.
Oui, tout le monde était là et tout le monde a fait un pas vers les autres. Enfin, quand je vois les syndicats qui posent la question de l'ouverture du conjoint dans le dispositif de l'emploi local, c'est un sujet qu'on aborde maintenant depuis de nombreuses années. Quand je vois les patrons qui disent il faut qu'on arrive à retrouver de la richesse créée au sein de l'entreprise, mais que cette richesse elle soit mieux distribuée au sein de l'entreprise, notamment par l'intéressement, le gouvernement qui dit on regarde les dispositifs qui sont mis en place et on voit les outils fiscaux sur lesquels on peut agir. Je présenterai mercredi prochain une exonération des produits de première nécessité, enfin un élargissement des produits de première nécessité. C'est un coût de 600 millions pour la collectivité, c'est 600 millions supplémentaires pour le pouvoir d'achat. Comme sur la partie intéressement, il faut que, ce que je disais à l'instant, que les entreprises retrouvent du bénéfice, que les entrepreneurs retrouvent goût à l'investissement, mais il faut que les richesses qui soient créées au sein de l'entreprise puissent aussi bénéficier aux salariés.
Et alors, à l'issue de ce, ce tour de table, de ces ateliers, de ces négociations, vous aviez déjà des axes précis, des priorités, vous saviez où vous alliez, il n'y avait plus qu'à rédiger cet accord cadre, ou ça a encore pris du temps ?
Ça a encore pris un peu de temps, parce que l'idée n'était pas de sortir de la conférence en disant ça y est, je vous ai réunis, je suis content, j'ai fait mon coup de com et j'ai réuni tout le monde. Non, l'idée était de faire cette conférence, de dire voilà les axes prioritaires sur lesquels on veut avancer aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on doit avancer. Donc il y a eu le premier axe sur la partie financement de la santé et transfert du coût du travail vers la fiscalité, où on a dit chacun a son avis sur le sujet et on va raisonner de manière pragmatique sur les choses. On va poser un scénario. Si ça marche, on y va. Si ça marche pas, on n'y va pas. L'objectif étant de dire que le coût du travail est trop élevé et qu'on doit augmenter les salaires en Nouvelle-Calédonie en transférant sur une imposition à assiette large. Mais si on voit que les différents scénarios qui sont produits, ben ça marche pas. On va pas plus forcer que ça. Moi, je suis convaincu que ça va marcher. Il y en a d'autres qui sont convaincus que ça va pas marcher. Les scénarios montreront les différents résultats. Ensuite, sur l'axe 2 et 3, sur le retour à l'emploi, sur la question du pouvoir d'achat et de la vie chère, on avait des propositions de mesures. Il y avait une nécessité d'affiner, il y avait une nécessité de prendre du temps. Moi, je m'étais engagé auprès des partenaires sociaux à ne pas communiquer avant qu'on ait pris ce temps-là. J'ai été largement sollicité par la presse pour avoir des éléments, mais je pense que parfois, il faut prendre un peu de temps et je pense que certains devraient s'en inspirer.
Alors, tout ça aboutit donc à cet accord cadre signé le 12 mai dernier. Seuls deux syndicats, la FED et l'UTFO, n'ont pas signé. Alors, pourquoi et est-ce que ça a des conséquences qu'il manque des partenaires sociaux autour de la table ?
Je crois que la Fédération des fonctionnaires et FO ont dit qu'ils étaient d'accord avec la méthode. Et ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec l'axe 2 et 3. Enfin, je suis pas le porte-parole de la Fédération des fonctionnaires.
Ça vous a surpris qu'ils refusent de voter ? Enfin, de signer, vous le sentiez venir dans les discussions quand
même ? Je crois qu'il y en a certains qui voulaient signer. Et des plus anciens dans les syndicats ont dit dès le début que... Dès le début de la conférence, qui ne voulait pas signer. Donc, il y avait des positions de principe. Moi, je le regrette parce que j'aurais préféré que tout le monde signe. Mais aujourd'hui, la très, très, très grande majeure partie des syndicats représentatifs, enfin, la totalité des organisations patronales ont signé. Et la très grande majorité des syndicats de salariés ont signé aussi. Enfin, la porte est ouverte. C'est ce que tout le monde leur a dit. Si à un moment, ils souhaitent re-rentrer dans le comité de suivi et le comité de pilotage, ils pourront rentrer. Maintenant, l'idée est de présenter des textes, l'idée est de partager ces textes avec mes collègues au gouvernement et de partager les textes avec les élus du Congrès. Et je crois qu'on a suivi la feuille de route que le Congrès nous avait donnée avec la délibération à l'époque qui disait que le gouvernement avait la responsabilité de discuter avec les partenaires sociaux.
Parce que pour l'instant, c'est un accord cadre, c'est un cadre comme son nom l'indique. C'est pas un accord sur toutes les mesures. Les mesures, elles doivent être prises au fur et à mesure et vous verrez si les partenaires sociaux acceptent ou non au fur et à mesure les mesures qui seront, les décisions qui seront prises.
Oui, surtout sur l'axe 1. Je crois que l'axe 2 et 3, je pense qu'il y a un consensus. Mais néanmoins, je me suis engagé et je tiendrai cet engagement à envoyer les textes qui passent à la fois en séance du gouvernement et au Congrès pour avis au comité de pilotage. Je pense que dans la période actuelle, on doit avoir un dialogue social qui est nourri, qui vit et qui est participatif. Je vous dis, moi, je ne considère pas que j'ai raison sur tout. Il y a des textes qui sont améliorés de manière perpétuelle. Je vois, mercredi prochain, je présenterai un texte pour la suite du chômage partiel exaction. Je présenterai un texte sur la partie pouvoir d'achat, l'élargissement des produits de première nécessité de 15 à 60. Je souhaite qu'on puisse présenter assez rapidement un dispositif qui fait que une baisse de l'impôt sur les sociétés pour envoyer un message aux entreprises, mais que dans le même temps, on puisse élargir l'intéressement aux entreprises de 15 à 60 salariés en exonérant de la prime d'intéressement pour qu'on soit dans un dispositif gagnant-gagnant à chaque fois. Alors, genre de en même temps.
Les objectifs, hein, c'est pour que les gens comprennent bien, donc construire un nouveau modèle économique, fiscal et social, s'attaquer à la structure et au niveau des prix, favoriser l'emploi et l'insertion, ça fait quand même beaucoup. Vous pouvez mener tous ces chantiers de front.
Est-ce qu'on a le choix, Elisabeth ? Enfin, est-ce qu'on a le choix de ne pas mener tous ces chantiers de front et encore bien d'autres ? Enfin, il y a la question de la rétablissement des comptes sociaux et des comptes publics. Enfin, on travaille avec Thierry Santa, avec Alcide Ponga, avec Samuel Népéoun et avec tous les autres membres du gouvernement, Claude Gambet, sur la question de la santé. On n'a pas le choix de travailler jusqu'à la dernière heure de notre mandat sur ces sujets, parce que il faut rétablir la Nouvelle-Calédonie. On a quelques signaux qui deviennent positifs, mais tous ces sujets doivent être abordés de front.
Alors les premières mesures, les premiers textes qui vont être proposés, ça y est, vous avez déjà votre calendrier, il y en a qui sont déjà prêts.
Oui, dès mercredi prochain, je vous l'ai dit, la suite du chômage partiel exaction, puisque le chômage partiel exaction s'éteint. Il devait s'éteindre en août de 2024. On a réussi, après moult négociations et moult longues soirées avec l'État, à le prolonger jusqu'en 2025. Ça a été un long combat. Mais maintenant, on propose un nouveau dispositif.
Là, il s'arrête en juin.
Il s'arrête en juin et l'État nous avait dit qu'il faut que vous augmentiez le chômage de droit commun. Et donc, les partenaires sociaux, après discussion, ont dit non, on ne va pas faire une augmentation du chômage de droit commun, on va plutôt faire un dispositif qui permet de favoriser le maintien et le retour à l'emploi. L'idée, c'est de ne pas payer des chômeurs, l'idée, c'est de remettre les gens au travail ou de les maintenir au travail. Donc avec une allocation spécifique qui maintiendra les gens au sein de l'entreprise, avec un dispositif spécifique, mais également une exonération de charges patronales d'ici la fin de l'année. Et d'autres dispositifs qui ont été travaillés avec mes collègues sur le renforcement de l'apprentissage, le renforcement de la reconversion à la fois salariale, mais également en entrepreneuriat, puisque il y a certains salariés qui souhaitent pas forcément redevenir salariés. Il y a un esprit pionnier en Nouvelle-Calédonie, il y a un esprit d'entreprendre en Nouvelle-Calédonie, et on souhaite accompagner ces gens-là.
Alors il y a aussi des mesures en faveur du pouvoir d'achat, bien sûr. Les Calédoniens les attendent, on imagine. À quelle échéance est-ce que les effets vont se faire ressentir ?
Directement, moi je le souhaite directement. En tout cas, on passera la semaine prochaine l'élargissement de 15 à 60 des produits de première nécessité. C'est un soutien de 600 millions pour le pouvoir d'achat. Il est hors de question, et je l'ai dit aux entreprises, que ces 600 millions soient captés en marge. Il faut que ces 600 millions soient directement... agissent sur la baisse des prix, parce qu'on a une détresse de pouvoir d'achat aujourd'hui. Je présenterai avec les différents partenaires des accords d'entreprise, des différents accords interprofessionnels, pour baisser les prix dans les grandes surfaces. Et je crois qu'il y a une logique à ce que les prix baissent en Nouvelle-Calédonie et qu'on arrive à remettre de l'emploi et à ce que cet emploi soit mieux payé.
Vous pensez que tout le monde va jouer le jeu ? La grande distribution vous semble prête à faire l'effort s'il y en a à faire ?
Oui, clairement. Et enfin, je vous dis, on surveillera. Enfin, on a pris le... c'est le cas de le dire. Enfin, on a pris une photo des prix aujourd'hui sur les produits qu'on va détaxer. Et j'hésiterai pas à dire quelle entreprise a pas joué le jeu. Enfin, je pense qu'il y a un moment dans la situation actuelle où le gouvernement, malgré des finances compliquées, décide de jouer le jeu en matière de taxes. Il faut que tout le monde joue le jeu, mais il faut qu'on aide les entreprises, qu'on accompagne les entreprises, qu'on simplifie la vie des entreprises. Je pense que la baisse de l'impôt sur les sociétés est importante. Quand on voit que la Polynésie française a un taux d'impôt sur les sociétés à 25%, quand nous on est à 30%, et que la Nouvelle-Zélande elle est à 19%, et que l'Australie est à 25%, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus attractif et qu'on simplifie la vie. Enfin, quand je vois le parcours administratif pour la vie des entreprises, mais c'est gargantuesque. On passera très prochainement aussi un texte pour mettre un registre unique et que les entreprises n'aient pas à contacter l'ISEE, la CCI, la CAFAT, la CMA. Enfin, simplifions.
Alors, engagement maintenu de ne pas augmenter la fiscalité, diminution de l'impôt sur les sociétés, mais il y a un besoin d'argent public énorme. Alors, on fait comment? On le trouve où, cet argent?
Ouais, je vais mettre. Enfin, déjà, il y a eu une très bonne présentation lors de la conférence sur le fait que quand on baisse l'impôt sur les sociétés, on voit qu'il y a un rendement supplémentaire. C'est ce qui s'est passé en métropole. Quand ils sont passés de 30 à 25, il y a eu un rendement supplémentaire parce que les entreprises font de l'activité et créent de la croissance. Et en effet, je m'étais engagé à ne pas mettre de taxes, mais je vais en mettre une. C'est qu'il y a une taxe qui existe partout dans le monde quasiment, qui est la taxe sur les prestations extérieures. Quand une entreprise qui n'est pas installée localement vient faire de l'activité dans un pays, en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence pas la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle n'est pas encore mise, mais elle paye une taxe sur les prestations extérieures de 15 ou 20% parce qu'elle contribue au final au pays. Donc je mettrai en place cette taxe parce que le but, c'est d'aider les entreprises qui sont installées en Nouvelle-Calédonie massivement, en les accompagnant sur la fiscalité et en baissant l'impôt sur les sociétés. Et les entreprises qui ne sont pas installées localement, qui ne créent pas d'emplois localement, ben elles paieront des impôts et ça nous permettra d'aider les autres.
Alors, plus de transparence économique, hein, c'est l'un des thèmes également de cet accord cadre. Et parmi les sujets qui fâchent, lui, on en a déjà parlé, hein, des protections et des régulations de marché. Vous avez commandé un audit sur la question. Est-ce que c'est vraiment le moment de mettre sur la table ce sujet déjà qui divise? Et puis on va vous dire que les protections de marché, ça permet de sauvegarder des emplois calédoniens. Est-ce que vraiment c'est le moment aujourd'hui de parler de ça?
Je pense que c'est plus que jamais le moment. Enfin, il y a un moment, enfin, quand on est dans une crise importante et qu'on doit faire des réformes. Je vous garantis que je ne me fais pas des copains en ce moment en mettant ces différents sujets. J'ai aussi lancé, avec le président Ponga, une étude avec l'autorité de la concurrence sur les marges avant et les marges arrière de la grande distribution. Je souhaite qu'on ait toute la transparence pour savoir si les mesures qu'on met en place, elles marchent ou pas. Je suis pour, et je le dis très clairement, pour soutenir l'industrie locale. Mais je suis contre que le consommateur soit brimé parce qu'il y a des abus, c'est tout. Enfin, c'est lancer un audit qui permet de voir s'il n'y a pas eu des abus sur les dispositifs qu'on met en place. Je pense que c'est sain et on prendra les décisions derrière de supprimer un certain nombre de protections ou non. Enfin, en tout cas, je l'ai toujours dit, je suis contre les stops. Les stops sont une mauvaise chose parce qu'elles enlèvent du choix aux Calédoniens et c'est là-dessus... je prendrai des décisions rapidement.
L'objectif, c'est de rationaliser, mais pas de supprimer toutes les protections de marché.
Non, il faut mettre des protections de marché là où elles sont nécessaires et surtout qu'elles ne soient pas ad vitam aeternam. Enfin, elles doivent être mises au début, mais il ne faut pas qu'elles durent 50 ans. Si une entreprise n'est pas en capacité pendant les 5 premières années ou les 10 premières années d'avoir un marché qui est performant, surtout avec une défisque qui est une double défisque, on ne peut pas produire ce produit localement, c'est tout.
Alors cet ensemble de réformes, de mesures prévues dans l'accord cadre, est-ce qu'elles ont été évoquées avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui est venu surtout parler de discussions sur l'avenir, on y reviendra d'ailleurs, mais est-ce que vous avez évoqué également avec lui ces réformes, puisqu'on sait que l'État souhaite qu'il y ait un certain nombre de réformes économiques qui soient faites, hein?
Oui, on a évoqué avec le cabinet du ministre, puisque le ministre était concentré sur la partie institutionnelle. Et je pense que c'est ça. Enfin, on doit baisser nos dépenses publiques, on doit améliorer notre système. Il y a un plan d'évolution d'administration qui est mis en place. On doit faire des fusions de nos établissements publics, de nos directions, réduire la masse de fonctionnaires et d'agents publics sur le territoire. Et on a des dispositifs sociaux aujourd'hui qu'on ne peut plus assumer. On a eu une baisse du PIB d'entre 15 et 20%. Ça a été dit par le Sérum il y a quelques temps. Donc ces réformes, elles sont indispensables et on suit l'État sur ça. Par contre, on ne suit pas l'État quand il nous demande d'augmenter la pression fiscale. Augmenter la pression fiscale n'est clairement pas la solution aujourd'hui. Donc on a eu des discussions depuis maintenant environ un an avec les représentants de l'État. On a toujours refusé cette augmentation de la pression fiscale. Et en tout cas, tant que je serai membre en charge de la fiscalité, je la refuserai.
Emmanuel Moulin n'est plus un interlocuteur aujourd'hui. Depuis qu'il est devenu secrétaire général de l'Élysée, on imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la suite, qui s'occupe de ce comité interministériel ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Enfin, ça fait quelques temps que la mission reconstruction n'existe plus. On a pu indiquer au commissaire qu'au niveau du gouvernement, on préférait interagir avec le Haut-Commissariat et que le Haut-Commissariat remonte à qui de droit, parce que le Haut-Commissariat... Le haut-commissaire, et ça me permet de saluer l'ancien haut-commissaire qui est parti, avec le haut-commissariat local, on est en capacité d'avoir des gens en face de nous qui connaissent le contexte. Parce que faire des visios une fois par semaine avec des gens qui sont dans leur bureau à Bercy et qui ne voient pas les chefs d'entreprise, qui ne voient pas les salariés et qui ne voient pas la situation de la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué.
Alors, justement, dans les contacts directs, vous organisez lundi une rencontre avec les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? C'est pour leur présenter les mesures prévues dans l'accord cadre ? C'est pour avoir leurs sentiments ?
Déjà, c'est pour les écouter. Je pense que c'est... excusez-moi le terme, mais c'est bien de se mettre à portée de baffe parfois avec les gens qui subissent la situation. Je vois en deux jours, on a déjà près de 380 personnes qui se sont inscrites. Donc il y a réellement un besoin. Je pense que c'est important un an après de dire aussi ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui va être fait, et d'entendre les besoins des entreprises. Prendre des mesures qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain, c'est pas une bonne chose, et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Le président du gouvernement sera là, la présidente de la province sud sera là. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit dans la capacité de prendre des mesures qui soient connectées au terrain. On voit le dispositif Sud-Pro qui a été mis en place par la province Sud a très bien marché. Nous, on a mis en place également un dispositif pour soutenir les patentés, d'augmenter la déduction fiscale de l'IRPP pour les travaux à domicile. Ça marche très bien aussi. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses, et certainement il y a d'autres choses à mettre en place, et on veut les entendre directement. On fait beaucoup de visites, beaucoup, beaucoup de visites, mais là, d'avoir un rassemblement directement de personnes, ça nous aidera.
Un an après, quel est l'état de l'économie calédonienne ? Quelle est la situation ? Est-ce que c'est toujours aussi catastrophique que dans les premières semaines, les premiers mois après l'insurrection ? Est-ce qu'il y a un petit frémissement quelque part ? Quel jugement que vous portez sur la situation ?
Il y a un frémissement. Il est pas encore à la hauteur de ce qu'on souhaite, mais quand on a eu 15% du PIB qui a été détruit, et avec un choc moral sur des entrepreneurs et des salariés, on peut pas arriver à forcément à tout rétablir tout de suite, mais on voit le frémissement qui arrive, on voit des bonnes nouvelles qui sont quand même là. Enfin, le retour d'Air New Zealand, ça paraît anodin, mais c'est Air New Zealand, normalement, il ne devait pas revenir avant courant d'année 2025. Mais ils ont vu qu'il y avait de la reprise, ils ont vu qu'il y avait des conditions sécuritaires qui s'amélioraient en Nouvelle-Calédonie. On a des assurances qui commencent à vouloir revenir aussi en Nouvelle-Calédonie. J'en rencontrerai prochainement à Paris pour en faire revenir d'autres et pour qu'on élargisse le risque, pour que les personnes soient assurées, parce que c'est pas encore suffisant sur cette partie-là. Enfin, en tout cas, on n'y croit pas par méthode couée. On y croit parce qu'on commence à avoir des personnes qui souhaitent reconstruire, des personnes qui souhaitent investir, des investisseurs extérieurs qui souhaitent réinvestir en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une catégorie de la population qu'on oublie souvent, c'est ceux qui n'ont pas brûlé. Et on a beaucoup agi, et c'est normal pour ceux qui ont brûlé, mais il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires et il faut qu'on arrive à les accompagner du mieux qu'on peut. Enfin, en tout cas, on met toute notre énergie pour ça. Et enfin, en tout cas, j'y crois.
Et la phase de reconstruction proprement dite, justement, toutes ces entreprises détruites, alors elles attendaient les assurances, elles attendaient les indemnisations, il faut lancer les marchés. Combien de temps ça a... À partir de quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'on en a une idée un peu plus précise aujourd'hui?
Ça a commencé. Je vois des entreprises qui ont commencé à reconstruire. Ça va être long. Enfin, on imagine sur 3, 4, 5 ans. Même sur d'autres qui mettront peut-être un peu plus longtemps. Enfin, des sociétés comme la société Lefroy, ça sera long. Enfin, et on verra, et elles verront si elles ont le marché pour faire leur décision d'investissement. Mais en tout cas, dans les 2 ans, on verra certainement beaucoup d'entreprises se reconstruire.
Alors, toujours-t-il qu'il y a donc un accord économique, fiscal et social, mais pas d'accord politique. On imagine que vous avez suivi les discussions sur l'avenir institutionnel, qui se sont donc soldées par un échec à l'issue du conclave de Deva. Quel regard est-ce que vous portez sur ces discussions? Est-ce que vous avez regretté qu'il y ait un échec? Est-ce que vous attendiez qu'il y ait un accord ou est-ce que vous pensiez qu'effectivement on n'y arriverait pas?
Déjà, je salue la délégation notre délégation qui était au conclave, qui nous a permis d'éviter ce que proposait Manuel Valls, à savoir l'indépendance association. Il a voulu le mettre avec des mots qui sont différents, mais quand on propose le transfert des compétences régaliennes, une double nationalité et encore d'autres choses, ça s'appelle l'indépendance association. Et notre délégation a été particulièrement forte pour résister à ça. Bien entendu, je regrette qu'il n'y ait pas eu d'accord. Enfin, ça, c'est une évidence. Mais je ne regrette pas qu'on n'ait pas signé un mauvais accord. Il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le soleil se lève en Nouvelle-Calédonie. Les gens continuent de travailler. Les entreprises continuent à vouloir se reconstruire. Et surtout, tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de nouveau référendum. Il n'y a pas de nouveau référendum. Et donc, la Calédonie, elle reste dans la France, dans un espace qui est celui de l'accord de Nouméa, qui a été celui des dernières années.
Manuel Valls avait pourtant dit un accord ou le chaos. Il avait prédit la guerre civile, un effondrement économique, etc. Pas d'accord. Est-ce que c'est pas un handicap quand même pour la reprise économique?
Si, bien entendu. Enfin, c'est... pas d'avoir. Enfin, moi, je préférais qu'il y ait un accord sur 200 ans dans la France, avec plus de problèmes de sécurité, que tout se passe bien, que tout le monde s'aime. Mais la réalité, c'est pas ça. Et ça, il faudra un peu de temps. Et nous, on a toujours dit qu'on était ouvert à la discussion dans l'espace du vote démocratique des Calédoniens par 3 fois. Mais vous savez, il y a 2 choses dans la venue de Manuel Valls. Il y a le papier qu'il a posé sur la table, qui est un non-respect de la démocratie, un non-respect du choix des Calédoniens, mais il y a aussi les termes qu'il a utilisés, que vous venez de citer, Elisabeth, qui est sans accord le chaos, sans accord la guerre civile. Mais enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est des termes qui viennent, et je l'ai dit au commissaire mercredi en séance, qui viennent casser le moral des entrepreneurs, qui viennent mettre tout le travail qu'on fait au jour le jour pour faire reprendre l'activité économique, avec ces termes-là, ça vient le détruire. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans accord, il n'y a pas de modification constitutionnelle, et il n'y a plus de référendum. Donc on continue sur les termes de l'accord de Nouméa et on mettra en place les différents dispositifs fiscaux, les différents dispositifs de soutien à l'économie en lien avec les provinces et notamment la province sud récemment, pour soutenir les entreprises, pour soutenir les salariés, pour soutenir la population. Mais si Manuel Valls veut faire un coup de pub politique sur le dos de la Calédonie, en tout cas on lui donnera tort.
Vous pensez quand même qu'un accord est possible et qu'il faut poursuivre les discussions, parce qu'on ne sait plus très bien où on en est, si on poursuit les discussions, si on va aux élections sans les poursuivre, si on dégèle le corps électoral ou non. Vous, qu'est-ce qui vous semble la voie la meilleure? Continuer à essayer de discuter éventuellement?
Bien entendu. Enfin, je ne vais pas vous dire on arrête tout, on arrête de discuter. Moi, vous savez, j'ai surtout vu à l'issue du conclave un homme qui a été vexé. un homme qui a été vexé parce qu'il n'a pas réussi à passer son coup de force avec l'indépendance association. Il a dit, oh, je fais ma conférence de presse, si c'est comme ça, on retourne aux urnes. Et finalement, 15 jours après, il disait, ah bah finalement, je vous reconvoque à Paris, on va continuer à discuter. Mais oui, c'est ça la solution. La solution, c'est qu'on continue à discuter sur la base du choix des Calédoniens. On attend que le président de la République aussi se manifeste sur le sujet, parce que clairement, il ne partage pas l'avis qui a été dit par Manuel Valls. Enfin, au soir du troisième référendum, il a dit que la Nouvelle-Calédonie était française. Bah oui, la Nouvelle-Calédonie est française, parce qu'il y a eu un choix démocratique, et avec quelques boulets au pied. Hein. On avait eu quand même, en termes de corps électoral, pas le corps électoral qui nous avantageait le plus. Donc oui, très clairement, on souhaite un accord. Oui, clairement, on souhaite discuter. Et s'il doit y avoir des élections, parce que là, on n'arrive même plus à suivre si c'est cette année, l'année prochaine ou pas l'année prochaine. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est qu'il y ait un corps électoral qui soit dégelé, un corps électoral, enfin, des élections qui se passent bien et qu'il n'y ait pas de pression sur les Calédoniens qui doivent voter. Donc voilà notre position.
Et au monde économique, vous dites qu'il n'y a pas d'accord, mais ce n'est pas le chaos.
Pour
synthétiser.
Clairement, enfin, dire ça est une erreur politique majeure. Enfin, c'est la Calédonie doit avancer avec ou sans accord. En tout cas, moi, j'attends pas un accord pour avancer au niveau du gouvernement.
Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie. Merci d'accepter notre invitation.
Merci à vous.
La fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Il sera disponible dans un instant en audio et en vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Passez une excellente après-midi.